psaume 131, c'est un cantique de David, très court. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Vous savez que nous sommes dans une série sur la symphonie des psaumes. C'est une occasion encore d'apprendre à louer Dieu, à le connaître au travers de ses écrits. Et cet été, j'ai lu un des livres de David Polisson, dont l'un des chapitres traite du psaume 131. Ça m'a beaucoup encouragé et j'aimerais le partager. Puis je suis aussi devenu grand-père d'une petite fille que j'ai vue repue sur le sein de sa mère. Et donc, ça m'a inspiré aussi un petit peu, je dois confesser. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Est-ce que c'est aussi votre expérience ce matin? J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Vous avez commencé une nouvelle école, peut-être démarré un nouveau travail, un stage, rejoindre une nouvelle entreprise, un nouveau service, prendre de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités. Connaissez-vous ce calme et cette tranquillité de l'âme dans cette situation? Ou au contraire, connaissez-vous l'agitation, le tumulte, la crainte? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous tient occupé, préoccupé pendant ces jours? Et d'une façon plus générale, pourquoi perdons-nous notre calme si fréquemment? Quand éprouvons-nous de l'angoisse, de l'irritation, de la lassitude ou du désespoir? Et comment retrouver le calme dans notre âme? Le roi David, l'auteur de ce psaume, écrit il y a 3000 ans, expérimente une tranquillité de l'âme à laquelle nous aspirons tous, je crois. Il n'est pas agité par une activité frénétique à vouloir tout contrôler. Il n'est pas obsédé par des projets. Il n'est pas exaspéré par les retards dans les projets. Il n'est pas consumé par le besoin de réussir. Il faut que je réussisse. Il n'est pas hanté par la peur d'échouer. Il n'est pas rongé par les regrets, par le souvenir de ses échecs. Il n'est pas non plus assailli par la peur de l'avenir, de ce qu'il va rencontrer. Non, il est tranquille. Tranquille. Il est tranquille, mais il n'est pas zen. Une petite nuance là. Je veux dire par là que la tranquillité de son âme ne provient pas d'un détachement imperturbable. Vous savez, les zen là, ils sont... En fait, je m'en fous quoi. Tout peut s'effondrer, je m'en fous, je suis zen. Non, c'est pas ça du tout. Pas du tout l'attitude de David. Ou c'est pas non plus une indifférence stoïque. Oh, je ne m'implique pas, comme ça je ne souffre pas. Je n'ai pas à regretter si ça rate ou si... Non. Je ne serai pas déçu, non. Il n'est pas non plus nonchalant. J'ai l'âme calme et tranquille, c'est pas le gars qui a deux tensions. Vous savez, le genre qui stresse tout son entourage par sa lenteur et son absence d'entrain total. Non, dans ce psaume, David, il n'encourage personne à fuir des responsabilités. Il n'encourage personne à fuir les difficultés même. Ou à vivre une vie facile avec zéro contrainte. Non, David, c'est un roi. Il a bâti un royaume. Il a conduit des guerres. Il entretenait de grandes attentes et accomplissait de grandes choses au milieu de beaucoup d'effervescence, de confusion parfois, connaissant la pression, l'excitation, les chagrins, peut-être les outrages, relevant des défis. Mais son âme était calme et tranquille. Il ne calme pas non plus son âme. Merci beaucoup. Il ne calme pas non plus son âme par un verre d'alcool. Vous savez, ce genre de calme qui, au fond, vous met dans un état de brouillard tel que vous ne percevez plus vraiment les réalités. Il ne s'agit pas non plus du calme artificiel provoqué par une dose d'antidépresseurs. Non, la tranquillité intérieure décrite dans ce psaume survient au sein de l'action, survient dans des relations, des problèmes. La tranquillité de son âme provient avant tout de sa relation avec son Dieu. Tout comme le bébé sur le sein de sa mère trouve le calme dans cette relation. Bébé, il est juste apaisé parce que il sent l'odeur de sa mère. C'est tout doux, et puis c'est tout chaud, et il se calme. Le croyant, il trouve aussi la tranquillité de son âme dans cette relation-là, avec son Dieu. Son calme provient de sa relation avec son Dieu. Et donc je vous propose ce matin de voir tout d'abord l'agitation de l'orgueilleux, l'apaisement de l'enfant, et on verra enfin l'alternative à l'agitation. Regardons tout d'abord l'agitation de l'orgueilleux. Dans le verset 1, David dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas de choses trop élevées et trop grandes pour moi. » C'est comme s'il dit, c'est quand je m'enfle d'orgueil, quand j'ai des regards hautains ou quand je m'occupe de choses trop importantes pour moi, c'est dans ces circonstances-là que je suis agité. Nous avons besoin d'être libérés donc de cette volonté obstinée et orgueilleuse que nous connaissons. C'est notre orgueil qui génère l'agitation de notre cœur. L'anxiété, l'irritation, le découragement et l'ambition. Le cœur qui s'enfle dit « Je veux être quelqu'un. Je veux être reconnu par les autres. Je veux être aimé. » Nous voulons être vus. Nous voulons être désirés. Nous voulons être attendus par des amis. Nous voulons être reçus dans telle école ou dans tel groupe. Nous voulons être élus comme délégués de la classe. Nous voulons être choisis dans telle équipe. Nous voulons être performants. Et le problème, c'est que nous craignons de ne pas l'être. Alors nous sommes angoissés, craintifs, agités dans cette pensée. Et quand nous y parvenons, alors nous craignons à ce moment-là de décevoir. Ah ouais, mais si, maintenant que je suis délégué, ça va peut-être vous arriver, les gars. Si je les déçois, c'est la cata. Alors on est tout agité maintenant, tout troublé. Et puis, il nous faut assurer, il nous faut... Puis il ne faut pas qu'on nous pique notre place maintenant qu'on l'a. Donc on voit les autres comme des rivaux. Avant c'était des copains, maintenant c'est des rivaux. Et tout cela crée beaucoup d'agitation dans notre cœur. Si nous n'y parvenons pas, alors c'est la cata. On se met en colère, on est blessé dans notre amour propre, on n'a pas été élu, on n'a pas été choisi, on n'a pas été reçu dans telle entreprise, on n'a pas réussi à tel examen. On est blessé dans notre amour propre. On est jaloux des autres parce qu'ils ont été pris. Où nous sommes simplement déprimés. Ici, David dit aussi, je n'ai pas des regards hautains. C'est-à-dire, il ne regarde pas les autres de haut, parce que nous pensons être meilleurs qu'eux. Nous les rabaissons par nos critiques pour paraître un petit peu plus grands nous-mêmes. Nous jugeons les autres, ce qui nous place au-dessus d'eux, puisque c'est nous les juges. Vous avez remarqué, hein, on juge... Tel ou tel joueur de foot, il est complètement nul, il ne court pas. On juge le sélectionneur, l'équipe de France. Même quand elle est championne du monde, pourquoi il prend ce gars? Non, c'est 4-4-4 ou je sais pas quoi. On juge nos responsables politiques. Ils sont complètement nuls, ils ont pas fait ça, ils auraient dû faire ça. Nous, on sait tout, quoi. On juge notre patron. On juge. La réalité, c'est qu'on serait incapable de faire le travail qu'ils sont en train d'accomplir. Et pourtant, on s'est cru juge, leur juge. On va juger nos profs. Combien nous sommes sévères alors que nous serions incapables de faire leur tâche. Parfois, nous adoptons au contraire une attitude d'une piètre estime de soi. Vous savez, oh non, moi non, je ne peux pas prendre de responsabilité. Oh non, moi je ne sais pas faire ça. Et on a une grande timidité, on a peur de l'échec, du rejet. Mais cette attitude, elle cache également une espèce d'orgueil. L'orgueil qui a peur d'échouer. L'orgueil qui a peur de paraître défaillant, faible. Alors on refuse toute responsabilité. Tout risque, toute situation qui pourrait nous apporter de la honte en cas d'échec. On veut tellement pas ça qu'on ne s'engage pas. Alors on ne quitte jamais sa zone de confort. Et au fond, c'est encore la crainte qui domine nos cœurs et qui dirige nos vies. Et puis David dit ici, « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Cette parole, c'est surprenant, n'est-ce pas? C'est le roi. David, il est le roi. Qu'est-ce qu'il y a de trop important pour lui? S'il y a quelqu'un qui doit gérer les choses importantes, c'est lui. Alors, de quoi est-ce qu'il parle ici? Qu'est-ce qui est trop important pour le roi? Je crois qu'il s'agit de choses sur lesquelles il n'a pas de contrôle. Même le roi n'a pas de contrôle. Ce sont les choses sur lesquelles nous-mêmes, nous n'avons pas de contrôle. C'est-à-dire, nous n'avons pas le contrôle sur le temps. Nous n'avons pas les contrôles sur les résultats. Nous n'avons pas de contrôle sur les autres. Par exemple, si les enfants, vous voulez être premier de la classe, ou si vos parents vous disent, il faut que tu sois premier de la classe cette année. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez mettre le paquet, mais vous ne contrôlez pas tout. Vous ne contrôlez pas les autres. Vous ne contrôlez pas vos propres résultats même. Et il peut se trouver qu'il y ait un petit génie dans votre classe, le genre Einstein, là, qui ne travaille pas à la maison. Et quand il doit composer, c'est toujours juste. C'est toujours nickel. Le gars, il a entendu la leçon, paf, c'est enregistré, il n'a pas besoin de réviser. Alors là, vous allez ramer. Et ramer encore, tant que vous n'êtes pas le premier de la classe. Et vous allez déprimer parce que vous ne serez jamais le premier de votre classe. Alors ça va générer de l'agitation chez vous, de l'esprit de compétition, de la jalousie, de la déprime, le découragement. Après tout, vous direz, oh, mais j'y arriverai jamais de toute façon. Et si jamais vous réussissiez, vous deviendrez puant d'orgueil parce que vous l'aurez. Je l'ai fait moi-même. Et puis vous connaîtrez aussi la crainte au deuxième trimestre de perdre votre place. Vous allez connaître la crainte de décevoir vos parents. Peut-être de ne plus être aimé par eux parce que vous n'êtes plus premier de la classe ou parce que bizarrement vous avez écrit soupe avec 3 P. Nous devons dire à nos enfants, et ça c'est les parents, je vous invite vraiment à l'apprendre par cœur, on doit dire à ses enfants, non, je veux pas que tu sois le premier de la classe. Je veux que tu aimes Dieu et que tu fasses de ton mieux. Je le répète, aime Dieu et fais de ton mieux. Dans cet ordre-là, aime Dieu et fais de ton mieux. Quand on accepte ça, alors on connaît le calme et la tranquillité dans son âme. Ça génère la paix dans son âme. Brian Chappelle, pasteur aux États-Unis, raconte dans son livre « Grâce infinie » le jour où son père l'a conduit pour l'installer à l'université. Et il était tout content de partir faire ses études, alors ils étaient en route, en voiture, et puis dans la route, là, c'était une école qu'il ne connaissait pas. Une ville qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais visitée. Alors tout d'abord, il était excité, c'est la nouveauté, c'est l'université, c'est la liberté. Et puis, il a commencé à prendre conscience de l'ampleur du changement. Puis au fil du voyage, il a commencé à voir les chocottes. Et puis il était paralysé à cette idée de quitter sa famille, démarrer de nouvelles études. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va pas réussir? Tout ça, c'était dans ses pensées. Il était complètement paralysé. Et son père s'est rendu compte que son fils était anormalement silencieux. Au bout d'un moment, son père lui a dit « Tu as peur ?» Alors il a dit « Ouais, j'ai peur. » Son père alors a garé la voiture sur le bord de la route. Il a serré le frein à main. Et puis il lui a dit « Mon fils, je ne sais pas ce que cette école te réserve. Je ne sais pas si tu réussiras ou si tu échoueras. Mais tu es mon fils. Et rien ne changera jamais ça. Peu importe ce qui se passera, je t'aime et il y a toujours pour toi une place dans ma maison. » Ce fils a été apaisé. Il a connu la tranquillité dans son âme. Pourquoi? Parce que l'année universitaire qu'il allait faire n'allait pas déterminer l'amour de son père. Il n'avait pas à gagner la faveur de son père en réussissant ses études. Il allait travailler pour lui, pour la gloire de Dieu. Qu'advienne, il aura fait de son mieux. Il n'avait pas à gagner la faveur de son père en réussissant ses études. Il allait travailler pour lui, pour la gloire de Dieu. Qu'advienne, il aura fait de son mieux. Et son père lui assure son soutien, son amour. Une place toujours dans sa maison. Voyez-vous, on n'a pas le contrôle sur les résultats, sur les temps, sur les circonstances, sur les autres, les élèves, les profs, les patrons, les collègues. David ne s'occupe pas des choses sur lesquelles il n'a pas de contrôle. Alors ne vous préoccupez pas de qui est devant vous, de qui est derrière vous. Préoccupez-vous de plaire à Dieu, de faire de votre mieux. Vous n'avez pas le contrôle sur les temps, sur les résultats, sur les autres. Si vous aspirez dans votre travail à un poste, faites les démarches pour l'obtenir. Faites les démarches. Faites de votre mieux et faites confiance à Dieu. Mais si vous avez une envie viscérale de ce poste, si vous vous attachez tellement à ça que c'est votre vie est en jeu là-dedans, alors vous allez vous agiter, vous allez craindre. Vous voudrez vous faire remarquer par votre patron. Alors, vous allez vivre sous la pression, la nécessité de séduire, d'être performant, et vous allez vouloir séduire par votre charme, peut-être, par vos compétences, vos performances, et vous allez en devoir en faire un étalage. Au fond, c'est votre volonté orgueilleuse qui vous agite. Mais un jour,
quelqu'un vous fera blonde, vous ne serez pas remarqué, alors vous serez irrité, jaloux, en colère, déçu. Ne vous occupez pas des choses trop importantes, pour vous, trop grandes pour vous. Les choses trop élevées, pour nous, ce sont les prérogatives divines. C'est Dieu qui fait les choses. Par exemple, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Les choses trop importantes, c'est de vouloir se venger sur l'autre, de vouloir juger les autres, condamner, faire justice. C'est Dieu le juge. Voyons à présent l'apaisement de l'enfant. L'apaisement de l'enfant, David il prend dans ce verset 2, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Il prend une très très belle image ici pour nous aider à comprendre comment connaître le calme, cette quiétude de l'âme, comment être sevré de tous nos désirs trompeurs qui font la guerre à notre âme. David dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré. Comment un cœur orgueilleux devient-il humble? Il ne se guérit pas, en tout cas, en faisant pénitence, ou en mortifiant son âme, ou en décidant de se corriger, ou en s'imposant une lecture 2 heures par jour pour pouvoir, de la Bible, bien entendu, pour pouvoir devenir humble. Non, il va réussir à devenir orgueilleux encore plus en disant à tout le monde, hey, 2 heures par jour. Comment est-ce qu'on devient humble? Pas par notre volonté propre. C'est pas en disant, allez, cette année, je vais cesser de m'irriter, je n'imposerai plus ma volonté au monde entier. Non, nous avons besoin d'aide en réalité. Nous avons besoin d'aide exactement comme un homme qui se noie ou comme un bébé dans l'image qu'emploie David. Vous avez besoin d'une relation avec Christ, comme un bébé avec sa mère. Quand il a faim, le bébé est agité et sa patience, il pleure. Et c'est au fond la version enfantine des sentiments que nous connaissons en tant qu'adultes. Pareil, on s'agite, on pleure, on râle, on vit dans l'anxiété, la jalousie, le mécontentement, on tape du pied. Alors parfois, pour calmer un bébé, on lui donne une tétine, un doudou, ou alors le pousse. Mais arrive un moment où la tétine lui échappe, arrive un moment où il perd le doudou, où il se rend compte à un moment que son pouce, il a beau tirer dessus et il n'y a rien qui sort. Nous donnons parfois des choses qui ne peuvent pas nous satisfaire, des choses que l'on peut perdre. Et alors nous vivons dans l'agitation pour les obtenir, que ce soit des biens matériels, des positions, des relations. Nous vivons dans l'angoisse de les perdre. Et puis sa mère, finalement, lui donne le sein. Et là, instantanément, il s'arrête et goulûment à une tête. Après avoir tété, il est satisfait, il est apaisé. Il est calme, il s'en va. Nous connaîtrons ces sentiments de paix. Nous connaîtrons cette tranquillité de l'âme dans une relation avec Christ en qui nous trouvons notre satisfaction. Jésus, il est le seul qui sera toujours avec moi. Ma femme ne sera peut-être pas toujours avec moi. Mes enfants ne seront pas toujours avec moi. Mais mes amis ne sont pas toujours avec moi. Jésus me sera. Jésus est le seul qui me pardonne quand je fais mal. Jésus est celui de qui je reçois toutes choses. Il pourvoit à tous mes besoins. Il est le seul qui puisse me comprendre parfaitement. Il est celui qui, par sa mort à la croix, a fait que je suis accepté de Dieu. Ce qui vaut mieux que d'être accepté dans son patron, ou dans son équipe, ou dans mes copains. Il est le seul dont je ne puisse perdre l'amour. Il est celui qui dirige et contrôle parfaitement toutes les circonstances de ma vie. Alors quand vous nourrissez une relation personnelle avec Christ, vous êtes satisfait, vous êtes apaisé, tranquille, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Il faut que j'apprenne à me repentir lorsque je me prends pour le centre du monde. C'est Jésus-Christ qui est le centre du monde. C'est Jésus-Christ le centre de ma vie. Quand je vous dis cela, je suis insatisfait. Forcément, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le fait que je suis le centre du monde. Alors que ça crée forcément des tensions. Mais quand Christ est le centre du monde, quand il est le centre de ma vie, alors je suis en paix avec tous ceux qui partagent la même opinion. Quand j'oublie ces choses, je deviens jaloux, orgueilleux. Je ne dois pas me plaindre ou me faire plaindre, je dois simplement me repentir. Il faut que j'apprenne à me repentir lorsque je recherche aussi ma nourriture dans une tétine ou dans mon pouce, c'est-à-dire dans les choses, les relations, les activités qui ne peuvent pas véritablement me satisfaire. Aussi bonne soit-elle, si votre travail, si vos études, si votre club de foot, si votre mariage, si vos amis, vos enfants sont devenus votre raison de vivre, vous cherchez votre nourriture dans une tétine. Et vous avez abandonné le sein maternel. Vous devez vous repentir de cela. Rien de cela ne peut vous satisfaire, vous remplir, vous apporter du repos. Si vous poursuivez le succès, l'argent, la performance, vous cherchez à plaire, à séduire, alors vous ne connaîtrez pas la tranquillité de ce bébé sevré qui vous manquera toujours quelque chose. Alors comment, quelle alternative au fond à l'agitation de nos cœurs? Regardez comment David termine ce psaume avec le verset 3. Il dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Il interpelle son peuple en l'appelant par son nom. Israël. Vous pouvez mettre votre nom ici. Mettez votre nom. Mets ton espoir en l'Éternel. C'est-à-dire, fais-lui confiance. Considérez encore une fois ce bébé. Il ne peut rien faire par lui-même. Il dépend entièrement de sa mère pour sa survie. Imaginez que lorsqu'il a fini de manger, il soit encore inquiet de savoir, mais comment est-ce qu'on va faire pour me nourrir demain, quand j'ai bien vu qu'il n'y avait plus grand-chose. Quoi. Est-ce qu'il n'y a pas savoir pour faire du lit pour demain? Là, j'ai envie de m'endormir, mais... Non, mais est-ce qu'elle me tient bien, là? Mais si jamais elle s'endort, est-ce qu'elle va me lâcher et... Est-ce que je peux dormir tranquille, quoi? Est-ce qu'elle a bien fermé la porte d'entrée? Est-ce qu'elle a pensé à racheter les quelques couches et à lancer une machine, parce que là, j'ai vu que... beaucoup de choses à faire. Non, c'est stupide. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Le bébé, il lui fait entièrement confiance. Comment pouvez-vous vous inquiéter, vous qui n'avez aucune puissance et qui dépendez entièrement de Dieu pour votre survie? Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par lui. À chaque jour suffit sa peine. Voyez-vous, la solution à toute notre agitation, à nos inquiétudes, à l'irritation, à notre colère, c'est la confiance en Dieu. L'alternative à l'agitation de l'orgueilleux, c'est un merveilleux contentement en Dieu. Une pleine confiance en lui. Notre Dieu est juste. Il fait justice parfaitement. Mais peut-être vous êtes enragé par une situation que vous percevez comme une injustice. Alors, vous vous invitez à trouver des compensations, des peines. Vous dites du mal. Vous mettez les autres à l'amende. Vous leur faites payer en les méprisant ou en nourrissant contre eux du ressentiment. Pourquoi ? Parce que vous ne croyez pas dans le Dieu qui fait justice. Alors vous vous occupez des choses qui sont trop grandes pour vous, qui vous dépassent. Nous nous inquiétons de l'avenir, de notre réussite, de celle de nos enfants, de comment nous allons gérer telle et telle situation qui pourrait arriver, même si elle n'est pas à l'ordre du jour. Nous nous inquiétons pour notre toit, notre sécurité, notre santé. Alors nous élaborons, échafaudons des solutions parfois pitoyables. Nous utilisons le mensonge, des voies tortueuses, des compromis, le péché, ce qui ne peut qu'accroître notre trouble. Pourquoi ? Parce que nous ne croyons pas que Dieu est un Père qui pourvoit aux besoins de ses enfants avec une parfaite fidélité. Nous ne croyons pas que Dieu est le souverain qui domine sur toutes choses, sur tous les hommes, même sur ses ennemis. Il n'est jamais en retard, jamais dépassé par les circonstances. Il n'oublie aucun de ses petits. Il est animé d'un amour inconditionnel pour ceux qui croient en lui. Quand nous nous agitons, nous disons en fait, Dieu ne voit pas ma situation. Dieu ne comprend pas ce qui m'arrive. Et Dieu ne peut rien pour moi. Alors je m'en occupe moi-même. J'imagine. Croyez-vous qu'une mère serait honorée par l'attitude de son enfant qui s'inquiète toujours de savoir si elle va assurer? De son bébé? Non. Elle est honorée lorsqu'il s'abandonne entièrement sur elle. Son enfant lui plaît tout particulièrement parce qu'il s'abandonne entre ses mains. Il lui fait entièrement confiance. Il y a en est ainsi avec notre Dieu. Nous lui plaisons parce que nous lui faisons confiance. Lorsque nous trouvons en lui notre suprême trésor, il est honoré. Ce n'est pas une faveur qu'on lui fait. Nous le déshonorons si nous n'avons pas confiance en lui, si nous ne trouvons pas notre plaisir en lui. Nous devrions nous inquiéter de notre péché en réalité, de notre incrédulité. Nous devrions nous repentir plutôt que de nous agiter. Regardez dans le psaume précédent. Les psaumes sont classés dans un ordre en particulier, mais je voudrais juste dire je crois verset 3, il dit, comme 130, verset 3, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Et puis verset 7, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Voyez-vous, c'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu. Il a payé pour nous. Alors, toutes les fois où on a été incrédule, toutes les fois où on s'est agité, mettant le déshonneur sur lui, parce qu'on ne croyait pas qu'il était capable de prendre soin de nous, il a payé pour tout cela. De sorte qu'on puisse retrouver maintenant, à l'instant, comme le dit le psaume, maintenant et à jamais, la paix et la tranquillité dans notre âme. C'est quand on réenclenche la relation avec Dieu. Ça commence par une repentance. On fait le point avec Dieu. Et c'est là que la paix, qu'on retrouve la paix, le calme, la tranquillité, et qu'on retrouve aussi la communion avec Dieu. Alors cette année qui s'ouvre devant vous, placez en lui toute votre confiance. Vous avez des défis à relever cette année, certainement. Vous vous engagez dans une nouvelle voie, une nouvelle école, un nouveau travail. Un nouveau service, mettez votre espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Recherchez la communion avec lui. Trouvez votre plaisir et votre repos en lui, dans cette relation, comme ce bébé sur le Saint-Saint. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Amen.